pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
La scène se passe dans un film de Claude Chabrol qui s'appelle « Que la bête meurt ». Mais demain, après-demain et le jour d'après, qui sait si ce n'est pas chez vous, chez moi, que le repas de famille, la réunion, tournera au cauchemar. Paul Decour est patron d'un garage en Bretagne. Il y a autour de lui 6 personnes, dont sa femme, Jeanne, son fils Philippe, Hélène, son ancienne maîtresse, et un ami de cette dernière, il y a aussi une vieille cousine.
Eh bien, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire?
Je vais bouillir 4 heures.
Ah bah 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois. Quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit?
Oui.
Vous êtes une fine gueule, vous?
Ah oui, à mes heures, oui, bien sûr.
Eh ben, vous me comprenez, alors? Mais c'est vrai, on m'accuse toujours de râler, mais on fait tout pour ça. Et j'aime pas qu'on gâche la marchandise, moi. Vous savez pour combien j'en ai de viande ici, par mois, rien que de boucher? 100 000 balles. Et la cuisine, hein, c'est le salaire qui ne demande pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire, c'est bon ou c'est mauvais. Seulement ma petite femme, elle préfère s'enfermer dans sa chambre pour écrire ses petits machins. Moi, le matin, oui. Bien profité, monsieur.
J'ai cherché sur le net et auprès de mes amis quelques conseils pour éviter les disputes en famille. Mais je n'ai trouvé nulle part le cas de l'ordure patentée, du pervers, du sale type, comme celui qu'interprète ici Jean-Yann, un modèle qui n'est pas si rare et qu'on trouve encore aujourd'hui sur le marché, hélas. La revue Notre Temps, destinée aux plus anciens et aux plus sages d'entre nous, prodigue quand même à ses lecteurs quelques recommandations de dernière minute. Comme éviter d'installer à côté deux personnes qui se détestent, ne pas prévoir trop d'alcool, éviter que trop de temps ne s'écoule entre les plats, en gros c'est pour que le repas aille vite, éviter de parler de religion et de politique. Si des petites phrases assassines vous viennent aux lèvres, ne les laissez surtout pas sortir, conclut l'article qui résume très exactement ce qui est impossible à éviter puisque les familles se détestent, boivent trop et ne parlent que de politique. Le mieux étant donc, à la fin, d'éviter les repas de famille. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, règlement de compte en famille, ce sont 3 histoires racontées par Amaury Chardot.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ce repas, c'était il y a 8 ans, en décembre 2006. On était en Bretagne. Et c'est pas loin de Rennes, c'est une banlieue qui s'appelle Cesson-Sévigné. C'est assez vide en fait. Il n'y a que des vieilles personnes qui habitent et il y avait donc la maison de ma grand-mère là-bas. Et on avait décidé de tous se réunir cette année, à l'occasion de Noël et du Nouvel An. Du coup, on était dans la maison de ma grand-mère, c'était une maison qui sent le vieux. Ça sent le vieux meuble, ça sent le vieux bois, ça sent un peu le moisi. Et même les draps, c'est des draps qui grattent, qui sentent l'adoucissant, pas très bon. Mais je me rappelle, quelque chose qui me faisait vachement peur, c'est dans la cuisine de ma grand-mère, c'est les éponges. Elle garde des éponges pendant 2-3 ans, et à la fin, ça devient une espèce de masse totalement sèche, informe et bizarre. Enfin bref, on a décidé de faire le repas là-bas. On arrive, on pose nos affaires, on discute, on se retrouve, c'est cool, c'est rigolo, quoi, c'est... Ça fait partie des 2 ou 3 sessions qu'on a dans l'année pour se retrouver. Et là, c'était vraiment le calme avant la tempête. C'est-à-dire que moi, je retrouve ma marraine, on discute, comment ça va l'école, le lycée, tranquillou, avec mon oncle, c'est pareil, ma grand-mère, une petite bise forcée, et voilà.
Pourquoi forcée?
Parce que ma grand-mère, elle a choisi un peu les membres de sa famille, quoi, qu'elle appréciait. On va dire que du côté de sa famille, c'est un peu les bruns, et moi je suis né blond, quoi, donc j'étais de l'autre côté. En gros, je connais pas la famille du côté de mon père. Il y a 3 frères, on connaît pas les prénoms, on connaît pas les frères, les sœurs, donc faut juste savoir que de son côté-là, on est blond. Italie du Nord, du côté du Piémont, la blondeur d'Italie-Suisse, quoi. Et de l'autre côté de la famille, donc la famille avec cette grand-mère qui nous a invités à manger, c'est des Bruns. C'est une famille de marins qui vient de Saint-Malo, ils s'appellent tous Pierre, de génération en génération. Et c'est rigolo parce que voilà, nous on est quatre frères et sœurs, il y en a deux bruns et deux blonds. Mais du coup, c'est vrai que nous les deux blonds, mon frère Nicolas et moi, on était moins bien accueillis. Par exemple avec mon frère Jean-Baptiste, chez notre grand-mère, à Noël dernier, elle a donné un chèque de 50 euros à mon frère et rien à moi. On n'en parle pas, on le dit pas, et après on arrive à discuter, à vivre des choses, mais on sait très bien qu'il y a quelque chose qui fait qu'on pourra pas avoir la même relation, quoi. La guerre des cheveux. Donc là, voilà, on va dire à 18h, 2-3 heures avant le repas, il y a les personnages qui se mettent en place. C'est-à-dire ma grand-mère d'un côté, la matriarche qui nous accueille dans sa vieille maison de Micambrousse, et les deux autres personnages, les deux rôles-titres de la pièce qui va se jouer, ça va être ma mère et mon oncle. Mon oncle Pierre Arnaud, donc c'est ce patriarche qui a pris la place du père une fois qu'il est mort. Voilà, chef d'entreprise, batailleur, je suis parti avec 100 francs quand j'avais 17 ans, je suis revenu avec 3 millions, puis après j'ai tout perdu en un soir. Qui aime la formule politique, qui a été dans la jeunesse UMP à l'époque et qui aimait se friter avec Nicolas Sarkozy quand il était jeune en débat comme ça. Et ma mère, très différente de caractère que son frère, mais un caractère tout aussi fort et tout aussi tempétueux. Elle est plus dans un style très émotif, vraiment hypersensible. C'est quelque chose arrive, elle le ressent tout de suite, quelque chose que tu lui balances à la figure, un petit mot, une petite phrase. Et elle est capable pendant 2 heures de t'agripper la jambe par rapport à ça. Et c'est vraiment des personnages d'opéra, des personnes qui se placent comme ça avec toute leur force, toute leur énergie. Et ils ont cette faculté à imposer vraiment leur volonté, leur influence. Quand quelque chose leur arrive, quand ça parle, quand ça écoute, on n'a pas le choix. Il faut leur laisser dire les choses. Et donc voilà. On sait que dans cette famille-là, potentiellement, ça peut toujours un peu exploser parce que y a un enjeu très particulier, c'est justement l'image du père. C'est au cœur de toutes les rencontres qu'on fait. Donc le père de ma mère et le père de mon oncle, qui ont tous les deux 10 ans de différence, ma mère étant la grande sœur. Et ce qui s'est passé, c'est que ce par-là, apparemment, ma mère en a une image très affectueuse, très angélique presque. Et de l'autre côté, pour mon oncle, ce père-là, c'est moins que rien. C'est une personne qui, bien sûr, lui a apporté des choses, a été très forte comme il pouvait, mais c'était pas une belle personne. Et donc, à sa mort, ça a laissé une espèce de vide juridique sur cette image-là, qui il était, et ça a été, avec les deux personnalités qu'ils ont, l'occasion de créer des espèces d'images contradictoires et une espèce de point de tension. Donc on savait que ça a toujours été un peu là. Et ma grand-mère, elle se mouille jamais. Elle va toujours essayer d'arrondir les angles, de dire que cette personne-là était un peu tout à la fois. Avant que le repas se fasse, on n'entend rien de l'orage qui gronde, on était vraiment tout tranquille. Mon frère discutait avec son oncle, moi je discutais avec ma marraine, on revoyait notre cousin. Puis là, c'est le moment de mettre la table. Ma mère et son frère s'occupent de le faire. On place les couverts, à droite à gauche, on place la petite assiette, et puis il s'agit de servir le petit apéro. Mon oncle décide de servir une tranche de jambon, enroulée soigneusement, et au moment de poser la tranche de jambon sur l'assiette de ma mère, il la pose comme ça, sans délicatesse, mais sans force non plus. Et pourtant, à partir de là, ma mère se met à s'approcher de son frère et lui dire « Mais qu'est-ce qui te prend de faire ça ?» Et nous, on se retourne, parce que d'un côté, le ton est monté, on s'attendait à manger. Et elle lui a reproché d'avoir posé la tranche de jambon de façon trop violente sur son assiette. Donc, une scène un peu de western spaghetti presque. On se regardait avec mon frère, je me rappelle encore, on se disait mais non, le repas a pas commencé que déjà ça a explosé. Et puis je sais pas, on a peut-être fait les bonnes prières, mais pff, ça s'est calmé. Donc là, tout le monde se met à table. Seconde erreur, mon oncle s'assoit en bout de table. C'était la place de leur père. Et ma mère, qui était à sa droite, ça, elle lui fait remarquer. Et ça, il le prend mal. Et après, le ton monte très vite sur le fait de qui a le droit de s'asseoir à cette place ou pas. Parce que je pense qu'au fond, elle aurait eu envie de s'y asseoir elle aussi, en fait. Et là, elle dit, mais tu sais, avec le, comme pour la tranche de jambon, tu fais jamais attention à moi. Tu sais ce que ça m'a fait ressentir quand t'as jeté la tranche de jambon ici. Ben, ça m'a rappelé toute mon époque d'anorexie quand j'étais petite et que papa m'empêchait de manger, etc. Et que personne s'en souciait, en fait. Puis nous, on est juste là à se regarder autour de la table. Ça a bien duré pendant une heure et demie. Sans qu'on puisse dire un mot et sans qu'on puisse manger quelque chose. Et on essayait de chercher de l'aide. Ma grand-mère qui fait des allers-retours vers la cuisine, ma marraine qui, elle aussi, regardait par terre, mon père qui lui avait complètement abandonné la planète Terre en jouant avec son iPhone. Il a essayé de lâcher quelques un ou deux courageux. Bon, ben, si c'est comme ça, on rentre. Hein. Mais bon, qui sont restés dans le vide. Et mon cousin, qui lui était trop petit et trop apeuré pour rentrer dans le jeu, on était comme pris en otage. Et dès qu'on essayait de se lever, et ben là, on avait un regard de nos oncles qui nous disait presque « Rassis-toi. Je suis content que les petits soient là pour écouter, parce que c'est important qu'ils entendent ce qui va se dire aujourd'hui. » Et c'est parti d'une tranche de jambon. Papa nous a jamais aimés, papa était un tyran, c'était un mauvais homme. Et de l'autre côté, non, tu mens, c'est pas vrai, mon père était un homme bien, c'était notre père, tu dois accepter ça. De toute façon, notre père n'est plus là, alors c'est moi qui prends la famille en charge. Et je sais pas pourquoi, ma mère s'est levée. Très doucement, elle a fait le tour de la table, elle s'est mise face à notre oncle, et lui a donné une claque. Mais une claque qui résonne. Le genre de choses au 18e, on aurait eu un duel pour ça, quoi. Et là, lui, ancien sportif, etc., et puis un peu fougueux, il répond par un petit crochet. Mais spontanément, comme ça. Mais pas fort, juste une petite tape sur la joue en guise de réponse presque réflexe. Et c'était pas spécialement fort, mais c'était deux gestes un peu humiliants l'un pour l'autre. Et donc, à partir de là... « Oh, Pierre-Arnaud, tu m'as frappé! Tu te rends compte? Tu as levé la main sur moi! Si papa était là, jamais ce serait arrivé !» Et à la fin, il n'y a qu'un silence. On va rien rajouter, on va pas se mettre à parler du Nouvel An ou des études ou trucs, parce que enfin, personne n'écouterait plus. Donc, tout le monde s'en va silencieusement à son hôtel. Comme une petite marche funèbre, quoi, parce qu'il y a vraiment quelque chose... Je pense qu'il y a quelque chose qui est mort ce soir-là.
France Culture, les pieds sur terre.
Et là, aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, mon oncle et sa sœur se parlent, on va dire, plus ouvertement. Ils savent... que plus rien ne sera pareil, parce que ce sujet-là ne sera plus abordé, ne doit plus être abordé, ils le savent bien. Mais ils ont fait une sorte de paix politique. Aujourd'hui, avec mon frère Jean-Baptiste et mon frère Nicolas, à qui on a raconté le repas, on parle de l'incident de la tranche de jambon. On en parle comme d'une blague, parce qu'en fin de compte, c'est la seule façon d'en parler, pour nous, en tout cas.
France Culture, les pieds sur terre.
C'était il y a quelques années, un dîner de famille. On était assez nombreux, c'était l'anniversaire de ma tante, qu'on fêtait chez mon père et ma belle-mère. Donc, mon père est remarié, sa femme. Et on était assez nombreux, enfin suffisamment nombreux pour avoir sorti deux grandes tables collées ensemble. Et appartement très bourgeois, enfin famille très bourgeoise, d'origine balkanique, chaleureuse, qui aime bien faire des grosses fêtes de famille, tout en étant un peu guindée. Pile ce jour-là, par hasard, mon cousin Germain, mais de l'autre côté de la famille, donc qui est du côté de la famille de ma mère, qui déboule, qui a vécu longtemps aux États-Unis, qui travaille dans la restauration et tout ça, et qui est très sympa, enfin on s'entend bien avec lui et tout ça, et je demande si je peux le ramener au dîner. Mon père qui dit « Oh, bien sûr, avec plaisir, Bertrand, ça fait des années que je ne l'ai pas vu, ça me fera très plaisir. » Donc lui, il est là en transit à Paris pour un truc de boulot, il est là juste pour une soirée. Et très fier, quoi. C'est un gars très fier. Donc en fait, il est très flatté que l'attention tourne un peu autour de lui. Tout se passe bien, tout le monde est content de le voir et tout ça. Et là, mon cousin qui parle de la France, à l'époque, ça faisait au moins 10 ans qu'il n'y vivait plus. Et puis surtout, il a jamais été actif en France. Il a toujours été vaguement étudiant. Puis en fait, il s'est barré très vite faire ses études en Suisse. Puis après, il s'est barré... je sais pas, 5-6 ans aux États-Unis travailler, et puis là, ça devait faire 2-3 ans qu'il bossait en Suisse, quoi. Donc, en gros, la vie d'un citoyen français qui paye ses impôts, il ne la connaît pas. Et il se met à asséner des grosses idées reçues sur la France des assistés. Et c'était l'époque de nettoyer les banlieues au Karcher et compagnie. Et lui disait « Ah, c'est bien, c'est cool, vous avez enfin un homme politique un peu fort, qui dit les choses. Évidemment que la France va mal, puisque les gens ont l'habitude d'être assistés, les gens se bougent pas. » Et moi, je lui dis « Mais enfin, tu peux pas dire ça, t'es pas là, tu vois rien, tu sais pas. Évidemment que les gens se bougent, mais non, les gens sont pas bêtement désassistés. » C'était une époque où moi, je galérais un peu niveau boulot. J'étais entre deux boulots. Et limite, je lui explique, bah tu sais, moi, si je touche le chômage, c'est parce que j'ai cotisé, en fait, en amont. C'est pas de l'argent que je pique à l'État qui me tombe du ciel. Ça représente la moitié de mes fiches de paye et ça sert à ça, justement. C'est comme ça que c'est fait. Je pense qu'il devait utiliser des termes genre gauchiste de merde, sans trop savoir dans quelle maison il avait foutu les pieds. Donc il se trouve que majoritairement, c'était en effet pas une maison de gauchiste, mais il était à côté de moi et moi, ça me gêne. Je me sens complètement insultée quand on dit ça. Sur ce, mon frère, qui voit sa petite sœur en train de s'engueuler avec son cousin au milieu d'un dîner de famille, me hurle dessus pour me dire que ça se fait pas. Donc c'est-à-dire que lui-même fait un truc encore plus mal élevé. En gros, il me disait « Je veux pas le savoir, je veux pas le savoir, ta gueule, ta gueule !» Voilà. Et là, ma belle-mère qui arrive avec le plat, hyper gênée. Ma belle-mère québécoise, ça fait 20 ans qu'elle est en France, donc eux, ils sont dans le non-conflit permanent, alors d'avoir trois espèces d'énergumènes latins, tout rouges, en train de se hurler dessus, « Oh, mais c'est pas grave !» Et en gros, si tu veux, ça s'est retourné que c'était moi la grosse relou qui avait foutu la merde, donc je devais juste fermer ma gueule, tout le monde dit « Bon, allez, ça suffit, stop, stop, bon, arrêtez, stop, tais-toi, allez, stop !» Et en fait, autour de la table, personne mouffait, enfin, c'était normal, quoi. Voilà, quelqu'un balance un gros pavé dans la mare, personne ne relève le pavé, alors que clairement ça vient de perturber la mare. En revanche, le petit héron qui était sur leur bord et qui dit « Non, sans déconner, qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors là, lui, il fait chier tout le monde. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette famille, quoi ?» C'est-à-dire que je pensais pas, en fait, être dans une famille un peu macho, et finalement, oui. Mon père, avec quelques verres dans le nez, il y a des pas mal de fois où il dit des trucs qui sont aberrants, quoi. Du genre, dans un restaurant, je sais pas, je devais avoir une vingtaine d'années, j'étais avec une de mes meilleures amies, qui connaît depuis longtemps et tout ça, puis, je sais pas, à la fin du dîner, elle se suce le pouce parce qu'il devait y avoir de la sauce dessus ou je sais pas quoi, et là, mon père qui fait « Oh, fais pas ça, tu m'excites !» Hyper gênant. Et lui qui rit, quoi. Comme si, en fait, voilà, on peut dire ça, on peut rire, quoi. C'est pas... Mais alors que c'est pas drôle, alors que c'est juste hyper malsain. Le dîner se passe, la vie reprend son cours, on passe au salon pour le dessert, arrive le gâteau, ma tante souffle ses bougies, tout le monde lui offre ses cadeaux, super chouette ambiance de famille. Alors elle a que des trucs qui lui plaisent, elle est toute contente et tout ça. Et puis le cousin Bertrand, il s'était pointé les mains vides, quoi. Lui qui se vante d'être un globe-trotteur, de voyager tout le temps, de passer sa vie dans les aéroports, bon, clairement, dans un aéroport, tu chopes une boîte de chocolat, n'importe quoi. Voilà la caricature du donneur de leçons qui a pas trop balayé devant sa porte, quoi.
Les pieds sur terre.
Donc le 24 décembre, donc à repas de Noël, il devait être 22h, quelque chose comme ça. J'avais 16 ans, donc juste avant d'ouvrir les cadeaux, après avoir fait la prière pour manger, enfin c'était presque 60 à table. Des grands-parents, des tantes, des cousins, des cousines, il y avait tout le monde, quoi. Enfin, la famille proche, donc réunie au complet, chez mes parents. En fait, je me suis dit, bah tiens, tous ces petits catholiques là qui me gonflent avec leurs prières, leurs messes tous les dimanches, la communion, enfant de cœur, tout ça. Je me suis dit, bon, bah au moins ça va les secouer. Et puis, ça a été quelque chose d'assez jouissif. Le coup final de l'année, enfin, c'était impérial, quoi. Puis c'était, oui, enfin, le 24 décembre, c'est très, très catholique, très croyant, tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, on va bien foncer dedans, histoire de rigoler un petit peu. Et puis en fait, il y a des gens que j'aimais pas, donc je me suis dit, tiens, ils vont peut-être partir. Puis en fait, mon plan n'a pas marché. Mais c'était marrant. J'ai dit, j'ai quelque chose à vous dire. Donc là, ma mère me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Je lui ai dit que non. Mon père m'a dit, tu ne peux pas avoir d'enfant? Je leur ai dit non. Je leur ai dit, voilà. Moi, les filles, c'est pas mon truc, donc je préfère les garçons. Et donc là, ça a été un froid. Tout le monde se tourne l'un vers l'autre et tout le monde commence à piapiater. Étant donné que c'est des Antillais, donc forcément, les ragots, ils aiment ça. Donc c'était vraiment des petites messes basses, tout ça. Donc moi, jusqu'à ce que ma mère tape du poing sur la table et leur dise de la fermer, quoi. Et que s'ils sont pas contents, qu'ils prennent leurs affaires et qu'ils partent ou qu'ils se taisent. Ça a été clair, hein. Personne n'est parti de table. Bien dommage. Et puis après, ma mère m'a dit, tu es comme ça, je préfère que tu sois comme ça que curé.
Devant tout le monde.
Devant tout le monde, oui, alors qu'ils sont très croyants. Elle m'a dit, je le savais, mais je t'en ai jamais parlé, parce que c'était pas à moi de t'en parler, c'était à toi de m'en parler. Et mon père a eu du mal à l'accepter. Il m'a demandé de venir dans la cuisine avec lui. J'y suis allé. Il m'a attrapé j'avais les pieds qui ne touchaient même plus le sol. Ça a été le coup de massue, quoi. Enfin, je pense qu'il s'y attendait pas du tout. Et c'était de l'énervement, de la colère, des pleurs. Enfin...
Il a pleuré ce soir-là?
Ah ouais. C'était pas normal, que c'était un manque de lui, de son éducation. Enfin, qu'il avait tout raté. Que je ne pouvais pas être comme ça, que fallait que j'aille voir un médecin parce que c'était une maladie grave, c'était tu vas être un faible, on va te faire la misère, ça va être un calvaire pour toi, donc change ça tout de suite. Et après il s'est calmé, il est parti dans son coin, je suis parti dans mon coin, et le repas de Noël a continué.
1934, ma grand-mère en landau, on dit que je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Cette maison aura vu des enfants défiler, quatre générations dans le grand escalier. Là tu vois c'est mon père, nos vacances à Corfou. On nous voit pas très bien, l'image est un peu floue. Derrière moi c'est ma sœur déjà très agitée. On est vraiment tranquille que quand elle se tait. Regarde un peu ses fringues, tellement kitsch j'adore. Ma mère qui fait cette robe, je crois qu'elle l'a encore. Voilà toute ma famille était 81, avec les nains de jardin et le puits en pneu peint. effaces les visages d'une vie en images. Affiger le temps avant que le temps nous fige. Si c'est toi la bonne, on continue l'album. Voilà ma tante Yvonne, un peu envahissante, qui rit pour trois fois rien, qu'à l'épige rayonnante, collectionne les chouettes, c'est sa monomanie. Elle en a 716, dont une qui brille la nuit. Un peu en froid depuis la mort de grand-père. On dit qu'elle perd la tête, qu'elle picole en cachette. De toute façon, je m'en fous, c'est ma tantine à moi, ma deuxième maman, ma troisième frangine. Passe les visages d'une vie en images. Affiger le temps avant. On continue l'album. Son mariage avec tous nos cousins. On avait pour l'occasion invité les voisins. Un jour ce sera mon tour et ça je.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, règlement de compte en famille, un prélude à ce week-end qui vous attend, signé Amaury Chardot et réalisé par Perret Legras, et un extrait d'une émission de Delphine Saltel. Merci à Benoît, à Sophie, à Leïla et à Sylvain. Bonne fête à tous, bien sûr. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons très belle page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent nombreux. Sachez également que toute la semaine prochaine sur France Culture, c'est une semaine spéciale de programmes baptisée Les Explorateurs. Et dans Les Pieds sur Terre, vous pourrez découvrir une nouvelle série en 5 épisodes par Léa Weinstein, une exploration de la petite ville drôlement nommée de Mortefontaine. Et pendant que j'y suis, je vais vous faire la minute corporette, mais pas que. Et je vous rappelle aussi que le numéro 22 de la revue papier de France Culture est en kiosque. C'est un excellent cadeau à faire. On y pose notamment la question fondamentale : pourquoi voulons-nous du nouveau ? Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Chaque jour, c'est la même, mais elle se renouvelle toujours en même temps.